A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Attention, ce podcast contient des récits de violences sexuelles et psychologiques. Les mises en cause dans les épisodes ne font pas l'objet de poursuites judiciaires à ce jour. Ils sont donc présumés innocents.
Qui est des imbéciles, des coupables, des faquins, des pleutres, qui utilisent des concepts qui consistent à dire « ne va pas médire contre quelqu'un » et « ne va pas livrer ton frère, mais pas à juste titre ». Quand maintenant il y a une victime, moi je puis vous dire « dire quelqu'un ne porte pas plainte », c'est empêcher la justice de s'établir. Or, il n'y a rien de plus dangereux aujourd'hui. Utilisons votre podcast pour dire aux victimes, quelles qu'elles soient, mais vous êtes entendues, évidemment. Ne croyez pas ceux qui vous disent « il ne faut pas faire du lashon hara, il ne faut pas faire de la médisance ». Ça n'a rien à voir avec la médisance. Savoir, au contraire, extirpera le mal du sein de ton peuple. Voilà ce qui a marqué dans la Torah. Ils devraient entendre ça, ceux qui prétendent se fonder sur d'autres choses.
Je suis Lila Berdugo.
Je suis Salomé Parent-Rajdi. Et vous écoutez le dernier épisode du podcast « Tu ne te tairas point ».
Épisode 6, la fin du silence. Ce discours du grand rabbin de France, il est précieux parce qu'il est inédit. À l'entendre, le temps du silence est révolu. Mais après les paroles, quels actes? On attend du consistoire des mesures effectives et proactives. Parce que jusque-là, il a fallu que des victimes osent enfin témoigner pour que l'institution réagisse.
Le grand rabbin de France a aussi tenu à nous dire qu'il a créé une commission contre les violences sexuelles. Elle s'est réunie pour la première fois à l'été 2022.
Moi, j'ai été auditionné par la CIAS, donc la commission Sauvé. Et j'ai vu la souffrance de l'institution parce qu'elle n'avait pas pris la mesure. Je vous parle des prêtres, des évêques, qui ont découvert des choses incroyables. Et je me suis dit, il faut que j'ai autour de moi quelque chose qui ressemble à la CIAS, c'est-à-dire des personnes extérieures à l'institution, mais aussi capables de parler à l'institution, donc dedans, dehors. On a les deux. Je crois que, compte tenu de la taille de la communauté, on a mis en place les instances capables d'être des lieux d'écoute pour les victimes potentielles. Mon rêve, c'est pas de réunir cette commission tous les deux jours. Moi, cette commission se réunit quand il y a le besoin. Mais après, elles ont suivi. Le suivi, c'est justement ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Donc la commission, elle n'est pas présidée par moi. Elle est présidée par une grande spécialiste du domaine social. Il y a des spécialistes de tous les domaines dont on a besoin. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas une impossibilité de parler. Puisque vous êtes dans les avant-propos, etc. Le lendemain de mon élection ici, j'ai mis en place deux médiateurs, un homme et une femme. Parce que j'ai conscience que parfois, notre système est trop masculin.
C'est peut-être rassurant de se dire que Chaim Corcia prend les devants. Mais le problème de cette commission, c'est qu'elle est créée et gérée par l'institution. Le grand rabbin de France compare son projet à la CIAS, la commission sur les abus sexuels dans l'Église. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Parce que la commission était totalement indépendante de l'Église catholique.
Jean-Marc Sauvé, haut fonctionnaire, a présidé ce travail d'enquête pendant plus de 2 ans. Avec des professionnels de la santé, mais aussi des droits des enfants et des théologiens, ils ont publié un rapport qui a ébranlé la France entière. Alors, comment imaginer que la commission, formée par Raïm Corcia, puisse assurer un tel travail d'enquête, en toute neutralité?
Ce que nous a aussi dit Raïm Corcia, c'est que si la commission ne s'était pas réunie avant l'été 2022, c'est simplement parce qu'aucune affaire ne s'était présentée. Comment croire à une telle affirmation? Ça, on en a parlé avec Janine Elkoubi, la cofondatrice de Nous pour Elle. Elle est membre de cette commission et selon elle, c'est la publication de leur lettre ouverte dans les médias à l'été 2020 qui a fait bouger les choses.
Lorsque cette lettre a été publiée, et là c'était un délai de 5 jours, j'ai reçu, puisque je fais partie de cette commission, j'ai reçu une convocation pour la première audience de cette commission. Et ça aussi, ça a été, je pense que le Grand Rabbin a été aidé par cette lettre à pouvoir lancer cette commission qui est extrêmement importante.
Et est-ce que vous avez l'impression que c'était quoi? Alors, il y avait vraiment de volonté du consistoire d'en parler? Vous ne savez pas comment faire?
Je pense que oui, il y a des résistances. Là encore, je ne suis pas en mesure d'évaluer qui, combien. Des résistances, c'est clair qu'il y en a, comme toujours quand il y a un changement important, et surtout dans ce type de domaine. Je pense que le Grand Rabbin a cette lettre ouverte qui a commencé à faire du bruit, parce qu'il y a quand même eu des articles dans différents journaux. Je pense que ça a été un tremplin pour lui pour pouvoir lancer ça, je crois.
Il y a une question centrale dans la prévention des violences sexuelles. C'est la formation des rabbins.
C'est une étape cruciale dans la vie de ces hommes qui va avoir une influence énorme sur leurs fidèles ensuite.
Dans la formation rabbinique, on a pris cet engagement. On va rencontrer tous les 3 mois tous les élèves, présents et moi, pour justement les alerter sur toutes ces questions qui sont des questions qu'on ne peut pas enseigner systématiquement. Mais la question, je dirais... du lien à la société, c'est-à-dire du lien et de la responsabilité qu'on a. Ces questions-là, c'est nous qui les aborderons dans une sorte de cours de pastorat appliqué. Je trouve bien que dans le contexte actuel, les élèves rabbins aient accès à cela. J'ai prévu de faire avec Maître Corcia à nouveau et l'Association des avocats juifs de France, c'est comme ça que ça s'appelle. La projection d'un film qui s'appelle M, de Yolande Zuberman, oui. Qui est un film bouleversant, qui dit voilà, il y a des choses. Et donc, il faut en avoir conscience pour pouvoir lutter contre. C'est un principe. Donc, je ne dis pas que ça existe partout, je dis ça peut exister. Et si ça peut exister, on a un devoir de prévention.
Pour le coup, le Grand Rabbin de France a raison. Le film M, de Yolande Zuberman, est vraiment bien. Il raconte le parcours d'un ultra-orthodoxe à Jérusalem, victime d'inceste dans sa communauté. Comment alors, un simple film suivi d'un débat, peut-il former efficacement de futurs rabbins aux questions de violences sexuelles? Là encore, on a l'impression que Raïm Corcia ne prend pas la mesure des choses. En France, la formation des rabbins n'arrive pas à adresser ces questions.
Émile Ackermann en a fait l'expérience. Souvenez-vous, c'est un futur rabbin qui a bien connu le rabbin numéro 1. Émile a commencé sa formation à l'école rabbinique du consistoire en France. Au bout de 6 mois, déçu par les cours et le conservatisme de la formation, il décide d'arrêter. Il part ensuite aux États-Unis avec sa femme Myriam pour finir sa formation dans une yeshiva. C'est un centre d'études des textes sacrés du judaïsme.
Là-bas, ils ont notamment mis en place une formation pour parer au mieux ce type de comportement problématique. C'est complètement inédit.
On a, par exemple, des psychologues qui, chez nous, assistent aux entretiens, les candidatures pour rentrer dans l'école rabbinique. Donc déjà, pour s'assurer de faire une sorte de profiling très rapide, pour s'assurer déjà qu'on peut filtrer les cas les plus évidents. Ensuite, à l'intérieur de notre formation, nous, on a un suivi régulier de psychologues, etc. Autant pour nous que pour nous parler des cas auxquels on va être confronté dans la communauté. Donc, être préparé d'un côté, le fait qu'un rabbin puisse avoir des sentiments pour une autre personne que son épouse, même des cas qui sont abordés dans notre yeshiva, le fait qu'on puisse avoir envie d'être proche de certaines personnes et où mettre les limites. Et c'est des cas qui sont abordés sans tabou et qui, pour moi, devraient être abordés sans tabou dans toutes les écoles rabbiniques et les écoles où les personnes vont être appelées à avoir un rôle, on va dire, de hiérarchique important pour se prémunir. J'ai passé 6 mois à l'école rabbinique du consistoire. Et en tout cas, pour ces petits 6 mois que j'ai passés, j'ai pas assisté à des cours sur ça. Le sujet n'est jamais abordé.
Quand on compare les ambitions de Chaim Korsia avec la formation qu'a reçue Émile Ackerman aux États-Unis, on se dit que le rabbinat français a encore énormément de travail à faire pour former correctement ses futurs rabbins.
On a rencontré Élie Lemel, le fondateur de Lève ta voix. C'est une association qui mène depuis 2018 des actions de prévention et de prise en charge des violences sexuelles auprès d'enfants de la communauté juive.
Pour faire de la prévention, il faut faire des ateliers pour les enfants dans les écoles, puisque c'est le lieu où on les rencontre. Donc nous, notre but, c'est pas de devenir intervenant dans les écoles. C'est de dire aux écoles, nous voulons donner dans vos écoles la possibilité que vous-même, en interne, vous ayez vos équipes qui forment.
Avec Lève ta voix, Élie Lemel a rassemblé une équipe de psychologues, de thérapeutes et d'avocats qui forment les directeurs et enseignants des écoles juives. Parce que les enfants peuvent devenir des proies particulièrement vulnérables.
Sur ce point aussi, il constate un retard français. À l'écouter, une des pistes d'explication, c'est l'absence quasi totale d'éducation sexuelle dans les milieux juifs religieux. Un manque qui contribue au silence des victimes.
À travers des ateliers pensés pour les enfants, en intégrant leurs particularités d'enfants d'école juive avec donc des éléments de langage et un vocabulaire, etc., leur donner des clés pour savoir « je dis non, je m'enfuis, je raconte ». Enfin voilà, mettre en place les grands fondamentaux tels qu'on les a mis en place. Il y a pas mal d'écoles qui ont joué le jeu, d'autres qui sont beaucoup plus réticentes, et pas des moindres, que je ne citerai pas. Pourquoi, j'en sais rien. De nouveau, je suis pas le flic du bon Dieu, j'ai pas envie de porter un doigt accusateur. Certains m'ont dit, m'arrêtez avec vos bêtises, ça n'existe pas. Je pense que ça fait sûrement remonter des choses. C'est pas simple, on est avec de l'humain, donc ce jugement de valeur tout de suite, c'est honteux, c'est pas bien, nanana. Attends, on est avec des êtres humains. On parle d'un sujet qui n'est pas simple. Je peux comprendre que ça crée une forme de blocage inconscient, de peur ou d'autre chose.
En écoutant Élie Lemel, on a compris une chose. À défaut d'avoir une institution qui prend les devants sur les questions de violences sexuelles, des initiatives hors consistoire se sont créées pour protéger les publics à risque. On est aussi allé parler à celle qui, aujourd'hui, se consacre à la place des femmes dans la communauté. D'abord, Myriam Sommer Ackerman, cofondatrice de Kollel.
Kollel, c'est un projet que j'ai effectivement fondé avec Talif et Toussitrev. Donc, au départ, nous souhaitions que, tout simplement, les femmes juives aient accès aux textes de leur héritage, puisque nous constations qu'à Paris, la plupart des cours à haut niveau étaient réservés aux hommes, et que pour les femmes, leurs textes, leurs propres textes, restaient somme toute un mystère. Ça nous tient à cœur de pouvoir entendre les victimes, les soutenir financièrement, leur donner un espace où elles peuvent s'exprimer, bien entendu dans l'anonymat le plus complet, puisque la plupart du temps, ce sont des femmes qui se disent que leur réputation serait détruite si tout le monde savait.
Ensuite, on est retourné voir Talit Refitoussi. On vous l'a présenté quelques épisodes plus tôt, avec son mari, Laurent. Pour elle, c'est fondamental aujourd'hui de donner une réelle place aux juives orthodoxes. Un espace où les femmes puissent étudier, s'élever mutuellement. Un espace, enfin, qui soit un lieu d'accueil et d'écoute, notamment pour les victimes.
Comment on fait ? On a plusieurs façons de le faire. La première chose, c'est des cours, donc des cours sur texte pour les aider. La seconde chose, c'est un magazine. où on va vraiment essayer de mêler le féminisme et le judaïsme, où on va parler de sujets en fait féministes et de voir comment est-ce qu'on les incorpore dans le judaïsme, comment est-ce qu'on peut vivre en tant que femme orthodoxe juive et être féministe quand même. Donc on essaye d'un côté de vulgariser des sujets féministes, de l'autre côté de faire la synthèse entre judaïsme et féminisme. Déjà, le féminisme, c'est un gros mot pour plein de juives. Donc on va essayer d'extraire des sujets comme le consentement, comme les violences sexuelles, comme la charge mentale. Et on va les définir, on va les décrire et on va faire des posts sur qu'en est-il chez les juifs. Le positionnement féministe, il est très très mal vu au sein du judaïsme parce que c'est un autre mouvement qui vient, on va dire, surplomber ou potentiellement être plus important que la loi morale du judaïsme ou la loi tout court du judaïsme. On a aussi des attaques sur le fait que on est des femmes qui étudient et sur les questions comme le consentement, le harcèlement sexuel, le viol. On a eu beaucoup de retours positifs. Merci d'ouvrir le débat. Et on a eu des retours négatifs aussi. Vous profitez à tous les antisémites qui veulent en entendre parler, vous dévoyez la religion en parlant de ces sujets-là, en faisant semblant que ça existe chez nous, ce genre de choses.
Toutes ces initiatives publiques montrent qu'en interne, au consistoire, trop peu de choses sont faites pour prendre le problème à bras-le-corps. En Israël et aux États-Unis, c'est une toute autre histoire. En Israël, par exemple, il y a eu l'affaire Chaim Walder, qui a eu un retentissement énorme. Après ça, la question des violences sexuelles commises par des rabbins est entrée dans le débat public.
Aux États-Unis, l'organisation Jewish Community Watch est allée plus loin. Elle a créé le Wall of Shame, un mur numérique sur lequel les prédateurs sexuels sont placardés. Pour Tali, le retard de la communauté juive en France par rapport aux États-Unis et à Israël n'est pas surprenant.
Je pense que la communauté juive va évoluer avec la société en général, que la société américaine est beaucoup plus avancée sur les questions de consentement, des questions de genre, des questions de féminisme. Une fois que la société est très éveillée sur ces questions-là, la communauté va répondre. En Israël, je pense qu'il y a effectivement cette non-distinction entre État et religion qui fait que les problèmes religieux passent directement au civil et aussi parce qu'on a cette influence des États-Unis et donc on a fini par parler. Et en France, moi, je pense que déjà la société française est un peu derrière par rapport aux États-Unis et en Israël sur la question des violences sexuelles, sur la question du consentement, sur la question des violences faites aux femmes. Ce qui fait que la communauté juive française est encore plus en arrière.
Après un an et demi d'enquête, on a besoin de faire un bilan.
On a été très étonnés de voir à quel point, la plupart du temps, notre initiative était la bienvenue. On a été très touchés lorsque souvent, à la fin des interviews, les membres de la communauté juive et certaines victimes nous remerciaient pour le travail qu'on était en train de faire.
Avec Salomé, on est convaincus que c'est un sujet d'intérêt public et que c'est dans l'ordre des choses que tous les piliers de notre société, y compris religieux, fassent leur introspection.
Il nous a fallu du temps et de la patience pour arriver à convaincre certaines des femmes de nous parler. Et pour ça, on tient vraiment à saluer leur courage. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui encore, oser dire que l'on a été victime de violences sexuelles, c'est difficile et souvent douloureux. Déborah le sait mieux que personne.
J'ai été une victime, mais je ne suis pas qu'une victime. Je suis une résiliente et je vais donner de l'espoir à toutes les autres femmes et aussi à travers mon visage et à travers ma voix. J'espère que toutes les femmes peuvent s'y représenter.
Hélène, Déborah, Ève, Judith. Elles ont été les premières en France à libérer la parole. Et c'est dans ce podcast qu'elles ont choisi de le faire.
Avec Salomé, on se tient à disposition d'autres victimes qui voudraient parler. Quelques outils émergent, les collectifs dans la communauté en sont un, ce podcast en est un autre. Vous n'êtes pas seul. On vous croit.
Vous venez d'écouter « Tu ne te tairas point », une série originale en 6 épisodes de Paradiso Média, en coproduction avec Slug News. Si vous souhaitez témoigner à la suite de cette enquête, vous pouvez nous contacter sur les messageries cryptées WhatsApp ou Signal sur ce numéro 06 38 35, 57, 64. Les données de vos messages seront protégées et votre anonymat garanti. Si le programme vous intéresse, vous pouvez vous abonner au podcast L'Affaire pour être notifié de la sortie des nouveaux épisodes. La meilleure façon de nous soutenir si vous aimez nos programmes, c'est d'en parler autour de vous, à vos proches et à vos amis. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et des commentaires. Merci et à bientôt. Si vous avez aimé « Tu ne te tairas point », découvrez notre nouvelle série, « Le sourire Gage », dans notre podcast « L'Affaire ». L'histoire d'une arnaque à la sécurité sociale, l'histoire d'un praticien qui exploite la fragilité de ses patients, d'un homme installé dans les quartiers nord de Marseille, devenu le dentiste le plus riche de France. À bientôt.